La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Mesdames, messieurs, bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour Izzy, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Merci. Et toi, Michel, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on reçoit l'éditeur de La Vie agricole, Yannick Patelli, sur notre panel de chroniqueurs. Également Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, qui vont nous présenter leur invité.
Bonjour à vous tous. Alors oui, aujourd'hui, on rencontre Michel, Izzy et Michel. On rencontre... Pascal Aguétas. Pascal Aguétas, en fait, il va se présenter lui-même. C'est un ingénieur qui a travaillé chez Cascade, entre autres. Mais on s'est rencontrés dans un 5 à 7 il y a quelques jours, en fait, lorsque Suzanne Dion a lancé son livre « Un village dans un fromage ». Il faisait partie des invités donc, à Sainte-Élisabeth de Warwick. Et on s'est mis à parler de différents sujets agricoles dans le cours du 5 à 7. Il m'a parlé des problématiques des éoliennes dans ce coin-là. Alors, bonjour Pascal Aguétas. Dans un premier temps, avant qu'on parle réellement du sujet éolien, peut-être que tu me fais un petit portrait. Je sais que vous étiez ingénieur chez Cascade et vous êtes actuellement en train d'essayer de développer une ferme avec votre fils dans le coin de Sainte-Élisabeth de Warwick. Peut-être nous faire le topo un peu.
Ben écoutez, j'exposerai pas mon CV trop longtemps, mais mon background réellement, je suis chimiste. J'ai travaillé pour la compagnie Cascade pendant 36 ans, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mes dernières tâches au sein de cette compagnie-là, j'étais vice-président des services corporatifs. C'est-à-dire que c'était les centres de recherche, l'approvisionnement en énergie, les approvisionnements, tous les projets d'ingénierie pour l'Amérique du Nord, en tout cas, c'est ça.
Et là, dans votre projet de retraite, avec votre fils, vous avez un projet agricole?
Ben, écoutez, oui, puis sans vouloir paraître de quelqu'un qui veut être à la mode, comme on dit, on est très très heureux de savoir exactement ce que l'on mange, fait qu'on a bâti, on est après bâtir une petite fermette bio. C'est pas grand, c'est 18 acres, mais on fait nos jardins, nos animaux, on est en train de faire des tests sur le concept d'une érablière modèle. En tout cas, on s'amuse tout en espérant en tirer quelques d'intelligence au travers de nos démarches.
Alors, on s'est rencontrés au 5 à 7, comme je disais, du lancement du livre de Suzanne Dion, Un village dans un fromage, à la fromagerie Le Presbytère. Puis, au fil des conversations, moi, j'ai capté une conversation que vous aviez avec Guy de Bailleul, un des coprésidents de l'Institut, et Simon Bégin, l'ancien attaché de presse de Jean Garon. Puis, ça m'a fait tilter un peu parce que vous m'avez parlé, en fait, d'éoliennes qui se répandraient un peu partout, Sainte-Élisabeth, Saint-Adalbert, de 16 000 hectares qui seraient occupés par des éoliennes. Et ça semblait vous offusquez un peu parce que il y a plusieurs choses par rapport à ça. Peut-être nous en parler. La hauteur des éoliennes, vous me parliez que les éoliennes pouvaient être plus hautes que le mille de la Gauchetière, entre autres, que ça pouvait avoir un impact sur la production laitière. Expliquez-nous le regroupement citoyen, finalement, parce que c'est un regroupement citoyen qui se lève contre ce projet.
Là, vous savez qu'avec cette question-là, vous venez d'ouvrir une boîte de Pandore et
c'était voulu. C'était voulu.
Écoutez, premièrement, je veux que les choses soient très très claires. Le regroupement citoyen n'est pas contre les éoliennes. C'est l'emplacement stratégique qui est le à l'ordre du jour dans nos démarches. Je m'explique. Au Québec, 2% seulement des terres non urbaines sont cultivés. C'est-à-dire, dès que vous sortez des villes, toutes les terres du Québec, 98%, ne sont pas utilisées à des fins agricoles. Donc, il y en a de la place pour mettre des éoliennes, inutile de le dire. Ceci dit, il est beaucoup plus facile, effectivement, d'installer une éolienne dans un milieu où il y a déjà des voies d'accès, où est-ce qu'il y a des chemins, où est-ce que... Enfin, on peut comprendre certaines choses. Et nous ne sommes pas contre les éoliennes. Toutefois, c'est quand même un peu parler des deux côtés de la bouche en disant, ben écoutez, on vise une certaine autonomie alimentaire, on veut développer le milieu agricole, et en même temps, on va sacrifier des terres pour implanter des éoliennes. On parle pas du côté bucolique du paysage. C'est pas là. On est vraiment dans le concret. C'est vous savez, d'être un père de famille, d'avoir deux enfants, puis de dire, ben, je vais en sacrifier un au détriment de l'autre. Et c'est là où est-ce qu'on a un petit peu une réaction négative à cet égard-là.
Donc, c'est le positionnement pour vous des éoliennes sur des terres agricoles que vous estimeriez qu'on pourrait aller les placer n'importe où ailleurs au Québec, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui nous chagrine là-dedans, c'est que quand on arrive avec une démarche scientifique, avec des mesures concrètes, avec des choses dans ce sens-là, c'est totalement exulté, complètement effacé, parce que ben, le marketing qui est employé à des fins d'implantation de ces éoliennes est un marketing. Vous voyez, j'ai sous les yeux là ce qui avait été mis par la MRC d'Arthabasca, les vraies affaires en ce qui concerne les éoliennes. Et je lis dans le texte, en plus de s'inscrire dans une perspective d'énergie renouvelable, les éoliennes n'affectent pas plus les oiseaux que les autres chats, que les autos, pardon, ou les chats. Et les éoliennes, c'est un potentiel immense pour nos générations futures. Et là, on parle d'argent. Oui, je vous en prie.
Non, mais est-ce que les éoliennes, ce que j'entends, vous dites, est-ce que les éoliennes seraient comme un placement politique, en fait, parce que finalement, faut qu'elles soient visibles pour dire, regarde, on fait du renouvelable.
Ben, il y a plusieurs choses à cet égard-là. Personnellement, je le crois, oui, effectivement. Et bien au-delà de ça, imaginez-vous qu'il y a un paquet d'études qui ont été faites par le gouvernement du Canada, au niveau du Québec, qui démontrent que c'est pas la bonne place pour les mettre, mais ça, on ignore ça complètement. Et même lorsqu'on nous assistons à des réunions politiques en tant que scientifiques à des fins d'expliquer que c'est pour la bonne place, à chaque fois on se fait replacer en disant oui mais économiquement c'est bon et visuellement cela permet d'apporter une conscientisation sur le fait qu'on a besoin d'énergie. Je vais juste vous citer par exemple deux trois affaires qui me paraissent très, très évidentes. Là, c'est le gouvernement du Canada qui a émis des études sur les bruits des éoliennes et la santé en milieu agricole. Le lien statistique a été clairement établi entre les désagréments associés au bruit des éoliennes et plusieurs effets sur la santé, y compris l'hypertension, les migraines, l'acouphène, le vertige, les résultats du... Oui. Fouillez Internet, vous allez voir, c'est très, très riche en documentation à cet égard.
Pascal Aguetas, j'ai autour de la table donc Michel Clouty, Michel Saint-Pierre et Izzy, je vais les faire réagir. Moi, j'ai encore quelques questions après à vous poser concernant la production laitière, entre autres, mais
Michel? Moi, je poursuis. Je comprends que c'est un peu la facilité qui fait là, qui fait qu'on veut s'installer là plutôt que d'aller ailleurs. C'est plus facile d'aller là que d'aller, je sais pas, dans les hauteurs de Rivière-du-Loup, par exemple, où il y en a quand même pas mal là-bas, là, déjà. Est-ce que c'est ça?
Ah, c'est exactement ça. C'est très, très simple. Vous savez, le fonctionnement d'un parc éolien, il y a une base pour les éoliennes qui nous concernent ici dans le centre du Québec, dans la MRC d'Arthabasca, on parle d'une base d'environ un hectare. C'est que c'est un immense pad de béton sur lequel on installe une éolienne. L'éolienne, quant à elle, est plus haute que le mille de la Gauchetière, qui à l'heure actuelle est la bâtisse la plus élevée au Québec, la construction la plus élevée au Québec. Donc on comprend que ça a besoin d'une certaine retenue. Il y a des chemins qui sont associés à chacun de ces pads-là. Il y a un réseau collecteur souterrain qui doit être aussi les câbles souterrains qui vont aller rejoindre un poste de transformation. Puis, il y a à nouveau des câbles qui iront rejoindre le réseau d'Hydro-Québec. Fait que tout ça, là, c'est l'implantation. À la fin, oui.
Oui, j'allais dire. Est-ce que le vent est important là-dedans, dans le sens où est-ce que c'est un endroit plus stratégique en termes de vent? Parce que je comprends bien que des éoliennes, ça lui prend du vent. Est-ce qu'il y en a plus là qu'il y en aurait ailleurs?
Non, pas du tout.
Bon.
Puis, faut comprendre, vous savez, tout le monde, quand on parle d'une éolienne de 6 mégawatts, c'est une éolienne avec une capacité de 6 mégawatts. La production réelle au Québec, en termes de capacité de vent, et l'efficacité d'une éolienne, ça c'est reconnu et documenté à de nombreux endroits, c'est environ aux alentours de 30%. Donc, lorsque vous avez une éolienne de 6 mégawatts, vous avez moins de 2 mégawatts de production moyenne sur l'année.
Mm-hmm.
OK?
Oui.
C'est 2 mégawatts, ça commence à... C'est pas négligeable, mais est-ce qu'il y a une analyse de carbon footprint qui montre l'intérêt de produire 2 mégawatts versus l'intérêt de sacrifier un hectare ou un hectare et demi de terre agricole? Ça, là, c'est pas fait nulle part, puis ça aurait besoin d'être documenté un peu plus, je crois.
Donc, ça apparaît marginal en termes de, comment dire, d'économie globalement, lorsqu'on regarde tout ça, là.
Le Québec est également déficitaire d'énergie, généralement, durant la période hivernale. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que les éoliennes en hiver, ce n'est pas utilisé pour fournir de l'électricité à ce moment-là. C'est difficile d'opérer ça en période estivale. Hivernale. Hivernale, évidemment.
Regardez, on met le doigt sur quelque chose. Là, vous, tout à l'heure, en introduction, je vous ai parlé de la boîte de Pandore et vous avez aussi parlé de positionnement politique. Vous savez, là, quand on va installer une éolienne, une immense éolienne qui a plus de 200 mètres de haut, et qu'aujourd'hui, on ignore encore, parce que ces éoliennes n'existent même pas au Canada, par exemple, en celles qui nous concernent, on ignore le bruit exactement que ça va faire. Est-ce qu'on est en train de vivre? Non, c'est pas bruyant. Moins 40 dB, vous allez voir. Et on va se retrouver à quelque chose comme le REM de Montréal, où est-ce qu'au départ, c'était pas bruyant, puis...
Et que finalement, c'est mal, ça l'est drôlement.
Mais est-ce que ça peut faire du bruit? Regardez, des pales qui sont de la même taille qu'un terrain de football et qui tourne dans le vent, faudrait être quand même un peu ignorant pour ne pas croire que quelque part ça va faire du bruit.
On pourrait peut-être les essayer ailleurs.
Alors, on parlait de placement politique tout à l'heure, mais on pourrait peut-être parler aussi de placement financier aussi, parce que j'aimerais ça, peut-être qu'il va falloir aller à la pause, Michel, tout à l'heure, je ne sais pas, mais j'aimerais ça aussi que M. Guettaz, vous nous parliez un peu, parce que je pense qu'il y a quelques histoires sombres dans certaines régions du Québec, en fait, où des conseils municipaux ont voté des implantations d'éoliennes, mais les conseils municipaux sont constitués en fait d'agriculteurs. Oui. Et les éoliennes rapportent 32 000 $ par année. C'est ce que j'ai cru comprendre de notre conversation de ce jeudi soir. Mais je pense que Michel Cloutier veut nous envoyer à la pause.
Oui,
on se reparle de ça tout de suite après.
On va aller à la pause et tout de suite après, on revient avec ce dossier.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélisle, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
On est de retour à la quotidienne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle entre autres de l'énergie par éolienne qui viendrait peut-être envahir des terres agricoles là, dans certains secteurs.
Oui, puis on parlait juste avant la pause, Michel, pendant la pause, Izzy me parlait de l'impact sur la faune. On en parlera tout à l'heure peut-être, parce que je pense que vous allez nous parler aussi des oies qui vivent un certain impact avec les éoliennes. Mais avant tout, j'aimerais ça que vous nous parliez de l'impact financier des éoliennes sur certaines terres agricoles qui rapportent 32 000 $ par éolienne. Puis vous sembliez m'évoquer jeudi dernier que ça peut avoir un certain attrait pour certains conseils municipaux, notamment quand ils sont constitués d'agriculteurs.
Ben, vous savez, on parle d'acceptabilité sociale souvent pour des projets tels que ceux-ci. J'ose croire que le rôle d'un maire ou d'une MRC, avant d'embarquer dans un projet tel que celui d'implanter des éoliennes, parce que voyez-vous, au centre du Québec, chez nous, on parlait au départ de 89, puis 67 éoliennes, puis fait que imaginez de bâtir 67 fois la place Ville-Marie dans une campagne telle que la nôtre. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Peut-être, peut-être pas. Donc, il y a des municipalités qui sont allées vers le fait d'aller sonder la population. Dans tous les cas, lorsque la population a été sondée, la réponse a été non, à l'exception d'un village où la réponse a été non à 80%, et c'est le village de Sainte-Élisabeth-de-Warwick. À 80%, les zones sondées ont refusé, une zone sur cinq a accepté, et ils auront des éoliennes. Puis juste à côté, il y a un village qui s'appelle Sainte-Séraphine, où la population n'a pas été sondée. Pas plus que la ville de Victoriaville, d'ailleurs, a été sondée. Ça a été fait de façon unilatérale, si je puis dire. Est-ce que c'est la façon de faire? Je ne sais pas si c'est une définition parfaite de la démocratie. Ce qui est fatigant, par exemple, c'est qu'il faut réaliser que chaque éolienne va rapporter en moyenne 32 000 $ aux propriétaires du terrain, annuellement. On s'entend annuellement. Mmh. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis, voyez-vous, on va même aller plus loin que ça. On a rencontré des gens dans notre région qui ont des difficultés financières. Puis, s'ils sont capables d'avoir trois fois des éoliennes sur leur terrain, ben le 96 000 $ que cela va leur rapporter, c'est sûr que c'est un bonus qui va les aider à maintenir leurs terres agricoles en fonction. Fait que voyez-vous, il y a toujours un yin et un yang dans chaque approche. Ceci dit, quand une municipalité a six élus, que les six élus potentiellement peuvent recevoir des éoliennes, et que ces six élus, sans consulter la population, décident d'aller dans un règlement permettant l'implantation des éoliennes sur leur terrain, ben c'est sûr que c'est pas kosher, là. Il y a quelque chose qui dérange un peu là-dedans. Je n'irai pas à dire que c'est malhonnête, mais est-ce que la population a été consultée comme elle aurait dû l'être? Non, ça n'a pas été le cas chez nous.
Il n'y a pas eu de consultation publique qui s'est faite de la part du conseil municipal?
Au niveau de cette municipalité, non. Mais voyez-vous, il y a d'autres municipalités. Il n'y a pas juste ici, hein.
Ouais.
En règle générale, c'est très, très, très souvent ce qui se produit. Mais voyez-vous, ça c'est le côté économique, puis faut pas oublier que les agriculteurs aujourd'hui ont un rôle d'agriculteur, mais c'est aussi un rôle d'homme d'affaires. Ils ont des business, faut qu'ils roulent ce business-là. Et l'apport de l'argent, ça peut être bénéfique pour certains d'entre eux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est ignoré en revanche, et ça c'est un sujet dont nous avions discuté, c'est l'impact éventuel sur les animaux.
Oui, parce que vous nous avez vous avez évoqué entre autres l'impact sur l'écosystème par rapport aux oies, ce que Izzy nous disait pendant la pause. Mais sur les éleveurs en tant que tels, est-ce que c'est prouvé que les éoliennes peuvent changer la production laitière en fait?
Via une méthode empirique, c'est-à-dire des mesures qui ont été effectuées au jour le jour. L'ANSES, qui est un organisme européen, a fait quelques mesures. C'est la MRC d'Arthabasca qui nous a remis ce document-là, en toute transparence. On lit dans ce rapport-là qu'on ne peut clairement établir une relation formelle entre le bruit des éoliennes et l'impact sur les animaux. Ceci dit, pendant une période de test, les éoliennes, pour une raison effectivement que j'ignore, ont cessé de produire pendant une période de 4 jours. Sur ce réseau géographique-là...
Le cheptel. Les éoliennes ont arrêté de tourner pendant 4 jours.
Les éoliennes, c'est ça, oui, tout okay. à fait. Les éoliennes ont arrêté de tourner pendant 4 jours. Sur cette zone agricole-là qui était mesurée, les fermes ont fait un constat d'une augmentation de 2,7% du nombre, du volume laitier et ce qu'on appelle les traites incomplètes. Vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que tout le lait n'est pas tiré de la vache. Donc, une diminution de 62% des traites incomplètes.
Mais est-ce qu'il voudrait dire
ça simplement en 4 jours.
Mais ce qui voudrait dire que ce serait le bruit des éoliennes ralentirait la production du lait.
Regardez, je n'irai pas immédiatement à cette conclusion-là, mais toutefois, le 5e jour, au redémarrage des éoliennes, la production laitière a baissé de 2,7% et en moins de 48 heures, le nombre de traites incomplètes est revenu à la normale comme précédemment, c'est-à-dire avec une hausse de 62%. Là, dans le cas donc, que je viens de vous citer, et il n'y a jamais eu d'autre étude que celle-là réalisée à ce niveau-là. Je vous parle d'éoliennes qui mesuraient 100 mètres de haut à une distance de 1200 mètres des étables.
Mais là, moi j'ai une question. Parce que là, on a ce cas-là. Il n'y en a pas eu d'autres ailleurs. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres... Est-ce qu'il y a des facteurs, généralement, qui peuvent faire baisser, justement, la production laitière de façon générale?
Alors, entre autres, le bruit. Entre autres, l'effet stroboscopique. Vous savez, ici, là, au centre du Québec, le projet qu'on nous avait présenté permettait d'avoir ces fameuses éoliennes de 200 mètres de haut à 300 mètres de distance des étables. Là, ce dont je viens de vous parler, c'était une éolienne de 100 mètres de haut à 1200 mètres de distance. Fait que, voyez-vous, il y a eu quelque chose de perceptuel à ce niveau-là. Maintenant, à 300 mètres d'une étable, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Mais est-ce que ça va avoir de l'impact? Encore une fois, la logique voudrait que oui, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'il va y avoir des... Là, je parle dans le néant complètement. Mais est-ce qu'il va y avoir des études, justement, qui vont être poursuivies? Parce que là, on voit un résultat qui est assez tangible, on va se le dire. Est-ce qu'ils vont développer là-dedans pour
systématiquement... S'assurer? Écoutez, votre question est des plus pertinentes. Systématiquement que nous apportons ce type d'argument, on nous dit « oui, mais va y avoir une étude réalisée par le BAP ». C'est sûr qu'on nous irons faire des représentations au BAP, tout en sachant que dans 0% des cas, le BAP est intervenu pour interdire quelconque projet éolien que ce soit.
Pascal, on est loin d'être des précurseurs en matière d'énergie éolienne. En Europe, il y en a beaucoup d'endroits. Là. À chaque fois qu'on va quelque part, je remarque que la plupart du temps, je les vois plutôt sur les flancs de montagne que dans les champs.
Ou en mer, souvent en Europe aussi.
Et en mer, bien sûr, il y a des parcs en mer, bien sûr. Mais il doit y avoir quand même des expériences qui ont été tentées là-bas. Je ne peux pas croire qu'on serait les premiers à essayer d'évaluer quel est l'impact d'éoliennes dans un milieu, par exemple, comme c'est le cas, terre relativement planche, là, comme on dit chez nous, avec cheptel laitier. J'ai misère à croire qu'on va tout apprendre, nous, ici, et où on va y aller par essai et erreur. Ça me paraît un peu bizarre là, que dans un secteur...
Je vous l'accorde totalement, mais je ferai un distinguo entre est-ce qu'on va tout apprendre ou bien est-ce qu'on ignore certaines choses déjà apprises. Ça, c'est là où ça devient plus délicat. OK? Il est certain qu'il y a une relation de cause à effet. Est-ce que c'est grave, c'est difficile d'en juger parce qu'on n'a pas de preuves assez tangibles, de mesures à cet égard-là. Est-ce que dans le cas qui nous concerne. Puis, regardez, peu importe tous les arguments techniques que j'ai pu apporter. Dans mon introduction, je vous disais que 98% des terres au Québec ne sont pas agricoles. Pourquoi sacrifier des terres agricoles? La question est vraiment là. Vous savez, un autre fait qui est quand même saillant, qui est quand même très important, un peu partout, il y a des radars météorologiques. C'est connu et simple. Le gouvernement du Canada ainsi que le Québec ont fait paraître un document qui dit que dans une distance de 0 à 5 km, les éoliennes peuvent bloquer complètement ou partiellement les radars et entraîner des pertes significatives de données qui ne peuvent en aucun cas être récupérées. Il est très clairement écrit par nos gouvernements que les éoliennes ne devraient jamais être installées dans une zone inférieure à 5 km. Pourquoi ça n'aurait pas d'impact sur des animaux à 1 km?
Oui. Mm-hmm.
Effectivement. Effectivement.
On peut certainement se poser la question. Tout à fait.
Il y a beaucoup de questions ouvertes, effectivement.
Mm-hmm. Et au final aussi, je pense que vous me disiez, quand on s'est croisés, en fait, que c'est aussi un drame sociétal dans certains villages, parce que finalement, des villages où tout le monde se connaît, des villages de 800 habitants, 1000 habitants, il y a les pro-éoliennes, les anti-éoliennes, puis ça ne fait pas forcément des relations faciles. Il y avait un petit côté cloche-merle, je pense, dans votre...
Oui, ben c'est triste, c'est très très triste, mais outre mon jugement de valeur, parce que je vois des gens qui sont allés à l'école ensemble il y a 40 ans, puis qui aujourd'hui ne se parlent plus, parce qu'il y en a un qui veut une éolienne, puis l'autre qui n'en veut pas. Ça, je trouve ça bien, bien triste. Il s'est passé des choses au centre du Québec, dans la MRC de l'Érable, où est-ce que des commerces en ont subi les foudres des voisins qui, eux, voulaient des éoliennes, puis la coiffeuse, elle n'en voulait pas, puis la coiffeuse, elle a comme perdu sa business. Mais outre ça, qui sont quasiment des cas pris point par point, il y a un prof de l'UQAM, le docteur Ève Maillé, qui a rédigé une thèse sur les divisions sociales provoquées par l'implantation d'éoliennes. C'est une thèse de doctorat. Cette personne-là est, croyez-moi, plus que crédible. Mais dans son analyse, dans son constat, elle démontre clairement que c'est probablement pas la meilleure chose à faire pour entretenir une meilleure relation à l'intérieur d'une communauté. Or, il est clairement stipulé par Hydro-Québec comme premier critère de choix d'un emplacement, c'est l'acceptabilité sociale. Et tout ce que l'on voit, nous autres, vous savez, on entend souvent le terme « le vent de la discorde », et c'est vraiment ce qu'on perçoit. Parce que il y a les pour, il y a les contre, et puis comme tous les pour et les contre, eh ben il y a des frictions. Et parfois ces frictions vont bien au-delà du fait que on gagne 2 mégawatts de production au Québec.
Les promoteurs de ces projets-là, je comprends qu'ils vont faire une démarche cas par cas, mais au total, ils veulent avoir un parc d'une certaine quantité. Ils ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas dire, je vais en mettre un là, puis pas là. Puis, il doit y avoir, j'imagine, un ensemble. Et si l'ensemble n'est pas, si on n'est pas capable de l'implanter, ils vont aller ailleurs, je suppose.
Je le suppose aussi, sans aucun doute. Un promoteur, généralement, c'est quelqu'un qui est coté en bourse, le promoteur de ces projets-là. Or, si vous êtes coté en bourse, vous avez des actionnaires qui s'attendent à ce que vous augmentiez les revenus de votre compagnie. Pour augmenter les revenus, il faut implanter des éoliennes au meilleur coût possible. Quand vous n'avez pas besoin de défricher des terrains, de faire des routes, quand vous n'avez pas besoin de tout ça, ben c'est sûr que les coûts d'implantation sont moindres. Je trouve que les promoteurs, lorsque la porte leur est ouverte par Hydro-Québec, les promoteurs font une excellente job, ils font leur travail, ils font ce dont pourquoi ils sont spécialisés. Fait qu'il faut pas... jeter le bébé avec l'eau du bain, là, c'est un terme bien connu. On peut pas tout mettre dans le même sac.
Ça veut dire on ne peut pas être contre les éoliennes, mais il faudrait peut-être trouver la meilleure place.
Ben, oui, il faudrait se questionner là, sur l'utilisation par le gouvernement du Québec d'éoliennes. Il y a peut-être des projets hydroélectriques qui pourraient être pas mal plus intéressants. Puis surtout, pourquoi l'empiéter sur des terres agricoles? Il y a beaucoup de questions, je pense, sur la filière énergétique qu'il faut se poser.
Merci, M. Agatas.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Hey,
merci énormément.
On a appris beaucoup.
Voilà qui complète cette émission de La Quotidienne. On se dit à la prochaine.